Entre Ésaïe chapitre 42 et chapitre 53, nous sont rapportées les paroles et présentées l'œuvre à venir d'un serviteur souffrant. Ce serviteur, nous croyons qu'il s'agit de Jésus-Christ. L'œuvre du serviteur, nous croyons que c'est sa passion à la croix. Entre Ésaïe chapitre 42 et 53 est annoncée de manière grandiose l'œuvre de Christ. Dans les chapitres qui suivent ces cantiques du serviteur souffrant, Dieu se base sur la venue de ce serviteur pour rappeler la grandeur de son amour, ainsi que pour exhorter l'être humain à se tourner vers lui. Voici ce dont il est question dans tous les chapitres qui suivent les cantiques du serviteur souffrant, la nécessité de la conversion. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre du prophète Ésaïe. Nous lirons Ésaïe chapitre 55, c'est à la page 832 des Bibles bleues que vous trouverez sur les bancs devant vous. Ésaïe chapitre 55, page 832. Ésaïe chapitre 55, page 832. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. Je l'ai établi comme un témoin pour les peuples, comme un guide et un chef pour eux. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et des nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, parce qu'il te donne sa splendeur. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voies ne sont pas vos voies, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voies sont bien au-dessus de vos voies et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu des buissons épineux poussera le cyprès, au lieu de l'ortie poussera le myrte, et cela contribuera à la réputation de l'Éternel. Ce sera un signe éternel qui ne disparaîtra jamais. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Dans ce chapitre, Dieu exhorte l'homme à se tourner vers lui. Et résumé dans ce chapitre, l'essence même de la vie chrétienne. Nous est rappelé ici notre mission en tant que chrétien, notre message et notre motivation. Notre mission, notre message et notre motivation. Tout d'abord, notre mission, être les témoins. Je vous invite à relire juste les versets 3 à 5. Tendez l'oreille, venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. Je l'ai établi comme un témoin pour les peuples, comme un guide et un chef pour eux. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas et des nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël. Parce qu'il te donne sa splendeur. J'avais conclu avec David une alliance pour qu'il soit mon témoin pour tous les peuples. je conclurai également une alliance avec vous. Et vous, mon peuple, vous appellerez les nations qui ne me connaissent pas encore. Vous serez mes témoins sur la terre. Vous serez mes témoins sur la terre. C'est un terme juridique que Dieu utilise ici, dans ces versets. Le rôle d'un témoin est de rendre compte de la vérité. Ainsi, s'il est témoin d'un crime, il sera appelé à rendre compte d'une manière sincère de la vérité de ce qu'il a vu. Le témoin doit rendre compte de la vérité. Vous serez mes témoins. Dieu nous appelle à être des témoins de la vérité. En tant que chrétiens, nous devons rendre compte de ce que nous avons vu et expérimenté avec Dieu. Dieu nous invite à être ses témoins. Voici ce que Dieu nous dit. Je veux que vous rendiez témoignage de la relation bouleversante que vous avez avec moi. Je veux que vous témoigniez du changement de vie, de la nouvelle naissance, du renouvellement de l'Esprit Saint, par l'Esprit Saint. Dieu confie cette mission particulière à son peuple. Témoignez de votre relation avec moi. Témoignez de votre relation avec moi. C'est là le message central de l'Ancien Testament. C'est là ce que Dieu demandait à tous ses disciples. Prenons la rencontre entre Dieu et Abraham. Dieu promet à Abraham qu'il va le bénir, qu'il va lui donner une descendance nombreuse. Que dit Dieu ensuite de partir, de sortir de sa zone de confort et de témoigner de la vérité, de la grandeur du Dieu trois fois saint. Et ainsi, Abraham doit quitter Ur pour aller annoncer la bonté de l'Éternel. Dieu invite Abraham à quitter Ur. Ou comme l'avait si bien dit un missionnaire, je ne sais plus si c'était anglais ou américain, mais lors d'une étude biblique ici, il y a bien des années, Dieu appela Abraham hors d'Ur, hors de la ville d'Ur. Dieu invite Abraham à quitter là où il est. Pourquoi ? Afin que les nations de la terre soient bénies par lui et par sa descendance. Dieu appelle Abraham à sortir de là où il est pour aller témoigner de cette alliance magnifique à ceux qui sont actuellement étrangers et encore ennemis. Abraham va être témoin de Dieu pour le bien des nations. Ou prenons Moïse. Dieu appelle Moïse en lui révélant sa personne. Et cette affirmation magnifique, « Je suis celui qui est ». Et de suite, le même discours. Dieu lui dit de partir, d'aller vers le Pharaon pour lui parler du seul vrai Dieu. Dieu l'appelle et l'envoie en même temps. Ces deux événements sont tellement unis que de nombreuses Bibles intitulent Exode 3, appel et envoi de Moïse. Ou encore Ésaïe, qui rencontre Dieu dans le chapitre 6 de ce livre. Ésaïe qui a reçu une vision de la grandeur du trône de Dieu et des séraphins qui chantaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Un appel exceptionnel, suivi d'un appel à partir pour aller témoigner au peuple était éloigné de son Dieu. Ou Jésus, en Jean chapitre 20, verset 12, qui affirme à ses disciples, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Dieu appelle ses serviteurs. Il leur donne de connaître sa personne, son amour, sa justice, sa sainteté. Puis il les envoie pour qu'ils soient ses témoins auprès de ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est toujours ainsi que Dieu agit. Aujourd'hui encore, Dieu nous appelle à sortir de notre zone de confort pour être ses témoins là où il nous envoie. Dieu nous a appelés hors de la condamnation du péché par Christ. Il nous a amenés dans son amour. Et maintenant que nous le connaissons, il nous appelle à être ses témoins. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas et des nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, parce qu'il te donne sa splendeur. Dieu invite son peuple à vivre la justice. Dieu invite son peuple à chercher la vérité. Dieu invite son peuple à témoigner de son amour et de sa personne. Nous sommes aujourd'hui en mission pour Dieu. Cette mission, c'est être ses témoins dans ce monde qui a tant besoin de lui. Tant besoin de lui. Nous sommes invités aujourd'hui à témoigner de la justice de Dieu, ainsi que de son amour manifesté pleinement et parfaitement en Jésus-Christ. Et le faire avant qu'il ne soit trop tard. Verset 6, recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Ce que Dieu souhaite pour l'être humain, quel qu'il soit, c'est sa conversion. Ce que nous annonçons aujourd'hui, c'est le besoin de conversion, de revenir à Dieu. Et c'est là quelque chose que notre société n'aime pas. L'annonce d'un besoin de changer. Il n'est pas rare d'entendre « chercher à convertir, c'est du prosélytisme ». À la limite, tu peux croire ce que tu veux, mais tu n'as pas le droit de chercher à imposer ta vision des choses sur les autres. Et ainsi, aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile de partager sa foi publiquement. Et même si tout le monde, en réalité, fait du prosélytisme. Tout le monde. Le prosélytisme désigne l'attitude de ceux qui cherchent à susciter l'adhésion d'un public. C'est ce que fait l'homme politique en cherchant à imposer sa vision des choses. C'est ce que fait toute publicité en cherchant à susciter l'adhésion et l'envie chez le consommateur. En Ésaïe, chapitre 55, Dieu appelle à la conversion. Il nous exhorte à comprendre ce qu'il annonce ici. Il souhaite que nous nous tournions vers lui, que nous comprenions sa personne, que nous comprenions l'œuvre de Jésus-Christ, son Fils, avant qu'il ne soit trop tard. Dieu appelle l'être humain à se tourner vers lui. La conversion, littéralement, c'est changer de voie. C'est changer sa manière de comprendre les choses. Il nous faut arriver, nous chrétiens, à une juste compréhension des choses. Il nous faut également changer notre manière de vivre. Et ainsi, nous serons des témoins de Dieu. Ainsi comme c'était le cas pour Abraham, Moïse, Ésaïe. Une fois que nous est révélée la grandeur de Dieu, nous sommes appelés à être ses témoins. Nous sommes appelés à être des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Un discours nouveau et une vie nouvelle. Un discours et une vie qui cherchent à refléter l'image de Dieu. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Voilà pour notre mission. Regardons maintenant au message qu'il nous faut annoncer. Relisons les versets 1 à 3. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment, et vous mangerez ce qui est bon, vous savourez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc, et vous vivrez. Venez à moi. Écoutez-moi et vous vivrez. Croyez en moi. Dieu n'appelle pas seulement à écouter, mais à croire en lui. Lui seul peut tout changer. Venez à moi. Venez à moi. Et si vous regardez Ésaïe 55, dans les versets 7 à 13, vous verrez les conséquences directes de cette foi. Votre comportement sera renouvelé, nous dit ces versets. Vos pensées le seront également. Mais plus encore, verset 12. Votre cœur, votre âme même sera comme intégralement renouvelé. Vous sortirez dans la joie, vous serez conduit dans la paix. Vous sortirez dans la joie, vous serez conduit dans la paix. La conversion, ce n'est pas seulement changer de comportement. Ce n'est pas seulement faire attention à ce que l'on fait et ce que l'on dit. Mais c'est un changement intégral de cœur. La conversion, c'est d'abord quelque chose de l'intérieur, une transformation de l'intérieur. Pour pouvoir réellement changer, il nous faut avoir un cœur renouvelé. Pour porter de bons fruits, il faut avoir de bonnes racines. Pour vivre d'une manière conforme à ce que Dieu souhaite, il nous faut un cœur renouvelé. Dieu seul peut renouveler notre cœur. Dieu seul peut le faire. Et ce qui est incroyable, c'est que Dieu le fait. Il le fait. Dieu est le seul à pouvoir renouveler les désirs de notre cœur. Revenez à moi. Revenez à moi. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Voilà parfaitement résumé le fonctionnement du cœur humain, n'est-ce pas? Payez pour ce qui ne nourrit pas. Travaillez pour une nourriture qui n'assouvira pas notre faim. Mettre toute notre ardeur à boire de l'eau qui n'étanchera pas notre soif. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? L'être humain est devenu, depuis la chute, le premier péché d'Adam et Ève, l'être humain est devenu incroyablement boulimique. Il nous faut toujours plus. Toujours plus. C'est une conséquence du péché. Avant la chute, l'être humain était pleinement satisfait en Dieu. Et Dieu en l'homme également. Nous n'avions rien à cacher, rien de honteux, rien à pardonner. Mais à cause de la désobéissance de nos aïeux Adam et Ève, l'être humain a perdu la relation qu'il avait avec Dieu. Et malheureusement, nous n'arrivons plus à retrouver cette relation que nous avions avec Dieu. Et l'être humain va chercher à retrouver cette relation ailleurs, mais sans malheureusement jamais la trouver. Nous avons été créés pour avoir une relation vivante et pleinement satisfaisante avec Dieu, notre Créateur. Avec l'apparition du péché, nous avons perdu, nous avons brisé cette relation. Relation qui était pleinement satisfaisante. La relation que nous avions avec Dieu comblait tous nos besoins. Cette relation était telle que nous n'avions même aucune insécurité. Nous cherchons aujourd'hui à combler ce vide par tout ce qui peut sembler donner de l'assurance. Ainsi, nous dépensons de l'argent pour acheter des choses qui semblent justifier notre existence. Nous nous disons, si j'arrive à m'acheter tout ce que mon cœur désire, alors j'aurai réussi ma vie. Dans notre société aujourd'hui, tout ce que l'on achète va révéler quelque chose de notre personne. Parce que pour tout produit que l'on achète, il y a mieux, il y a moins bien. Et nous cherchons quasi systématiquement la prochaine amélioration possible. Et cela, comme pour pouvoir se prouver, se justifier devant les autres, se payer des vacances luxueuses, réussir de brillantes études, collectionner les succès amoureux, voilà ce qui justifie aux yeux de notre société aujourd'hui. Quelle est aujourd'hui notre sécurité? Qu'est-ce qui, à nos yeux, aujourd'hui nous justifie? Il est facile de se croire maître de sa vie. Pensez que quoi qu'il arrive, je suis prêt. Parce que j'ai dépensé mon argent dans une assurance vie, dans un appartement qui maintenant m'appartient, dans un livret A, etc. Venez à moi, dit Dieu. Venez à moi, mettez votre espoir en moi. En tant que pécheurs, nous nous donnons tout entier, non pas au seul vrai Dieu, mais à bien d'autres choses. Nous adorons un métier, nous adorons une personne, une voiture, notre apparence. Nous adorons les créations et non pas le Créateur. Et c'est là ce que la Bible appelle l'idolâtrie. Mettre à la première place des choses qui ne méritent pas d'y être. Nous recherchons la reconnaissance des autres, la reconnaissance de notre société, la reconnaissance de nos parents, parce que nous n'arrivons pas à avoir celle de Dieu. Venez à moi. Ce qui est réellement triste avec les idoles, c'est le fait qu'elles ne satisfont pas. On peut se convaincre qu'elles sont efficaces, mais elles ne le sont pas vraiment. Ce sont des idoles, des créations. Elles ne sont pas le Créateur. Les idoles ne donnent pas la joie, elles ne donnent pas la paix, elles ne donnent pas la vie. Et c'est pour cela que nous avons toujours besoin de plus. Ainsi nous accumulons parce que nous croyons que ces choses finiront un jour par nous justifier. Mais tout métal rouille, tout habit tombe en lambeaux. Tous les trésors terrestres ne sont que fausse assurance. Un jour ou l'autre, ces choses n'auront plus aucune valeur. Si vous faites de l'argent votre trésor, vous n'en aurez jamais assez. Si vous faites de votre corps votre trésor, vous ne vous sentirez jamais assez beau, jamais assez jeune. Si vous adorez le pouvoir, vous ne vous sentirez jamais assez fort et influent. Si vous amassez des richesses intellectuelles, vous ne vous sentirez jamais assez intelligent. Si nous fondons notre espoir, notre assurance sur ces soi-disant trésors, alors nos vies seront fragiles, elles aussi. Là où nous allons, nous ne pouvons rien prendre avec nous. Jamais une idole n'a sauvé quelqu'un de la mort. Rien de ce que nous accumulons ici-bas ne nous suivra dans la mort. Venez à moi, dit Dieu. Parce que l'homme n'a plus cette relation satisfaisante avec Dieu, l'être humain fonctionne de manière boulimique. Il m'en faut plus, toujours plus. Et peut-être alors me sentirai-je sauvé de mon enfer. Mais nous ne pouvons trouver chez l'être humain et dans la création ce que Dieu seul, le Créateur, peut donner. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Écoutez-moi vraiment. Et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez donc, et vous vivrez. Croyez en moi, et alors votre cœur sera enfin satisfait. Venez à moi, et alors vous pourrez vivre. Le message qu'il nous faut annoncer est le suivant. Fuyons l'idolâtrie. Et adorons le seul vrai Dieu. En lui se trouve la paix, en lui se trouve la pleine satisfaction, la vraie justification. Lui ne connaîtra ni la rouille, ni les mythes, ni la pourriture, ni la décadence. Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez donc, et vous vivrez. Versets 6 et 7. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui, qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Pour ne plus être sous l'esclavage de ses désirs, il faut rejeter nos idoles, tout ce qui nous justifie à nos yeux, et reconnaître Dieu comme le seul vrai Dieu. Il nous faut comprendre ce que Jésus a fait pour nous, comprendre notre lien avec lui. Voilà la clé, voilà la puissance qui nous permet de venir à Dieu. Et voilà aussi notre motivation. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Dieu accordera, nous dit ces versets, un pardon généreux à celui qui revient à lui. Ce pardon nous est donné en Jésus-Christ, le serviteur souffrant. C'est là le message central du livre du prophète Ésaïe. Dieu va envoyer son serviteur. Ce serviteur va mourir pour son peuple. Le serviteur souffrant, Jésus-Christ, en qui il n'y a même pas l'ombre de péché, a pris sur lui le sombre et triste sort qui était réservé pour nos pécheurs. Le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu est retombé sur lui. Jésus-Christ, l'agneau parfait, a offert sa vie comme un sacrifice de réparation. Et ce sacrifice est réellement efficace. Ésaïe 53, versets 11 et 12, deux chapitres avant notre texte. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il est intervenu en faveur des coupables. La clé pour ne plus être sous l'esclavage de nos désirs, c'est comprendre ce que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est comprendre notre unité, notre union avec Jésus-Christ. Nous avons été ensevelis avec lui. Nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne. Unis aussi dans une résurrection semblable à la sienne. Le salut, ce n'est pas quelque chose qui vient de nous. Le salut nous est offert en Jésus-Christ. Le salut nous est offert. Par la foi, nous sommes maintenant unis à Christ, unis à un tel point que son passé est maintenant le nôtre, et son avenir devient également notre avenir. Si nous pouvons aujourd'hui rejeter l'esclavage du péché et nous mettre au service de Dieu, c'est parce que Jésus s'est uni à nous. Ce n'est pas parce que nous sommes devenus meilleurs par nous-mêmes, mais c'est parce que nous sommes déclarés justes, Jésus s'étant identifié à nous jusqu'à la mort. Le salut est réellement grâce. Grâce au sacrifice de Jésus, nous avons changé de maître. Nous ne sommes plus serviteurs du péché, nous sommes aujourd'hui au service de Dieu. C'est en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que nous trouverons la délivrance du péché. Car c'est lui que Dieu a envoyé pour libérer de ce dernier. Plus encore, nous sommes également aujourd'hui sous la main protectrice de Dieu, qui nous donne la force, par sa parole, par son esprit, de lutter contre l'esclavage de nos désirs. Dieu nous donne la force et Dieu nous donne sa parole. Et c'est merveilleux ce qu'il est dit de la parole de Dieu dans ces versets, n'est-ce pas ? Verset 11. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Je suis persuadé que si nous sommes fondés sur le Christ et sur la Bible, alors nous tiendrons bon lorsque viendra l'épreuve. Parce que Dieu nous le promet. Nous tiendrons bon parce que fondés sur ce roc qui, lui, est solide, qui, lui, ne vacille pas, qui, lui, n'est pas soumis autant à la rouille ou aux crises financières. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Un jour, il sera trop tard. Jésus revient bientôt pour juger la terre et ses habitants. En Christ, Dieu vous offre le pardon. Regardons à Jésus-Christ. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Entendons-nous cette exhortation ? Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Amen.